Alors, en attendant un petit peu ce temps de transition, on sait que les enfants nous préparent de belles choses pour la semaine prochaine. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier épître de Corinthiens, aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, 20. Nous l'avons déjà lu ce matin et c'est très court et ce sera notre fil rouge pour cette exhortation. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors vous savez, il semble souvent que c'est la personne qui connaît le plus grand nombre de versets, qui sait le mieux les expliquer, qui est le chrétien le plus populaire, ou celui qui est le plus spirituel, n'est-ce pas ? Plus on connaît de versets par cœur, et plus on impressionne les autres. Alors, c'est pas comme ça que ça devrait être. Je précise tout de suite que je vais peut-être être un petit peu provocateur, volontairement, dans cette exhortation. Et je veux d'abord que vous sachiez à quel point j'aime la parole de Dieu et que je ne m'élève pas contre la Bible, bien au contraire. En disant cela, je place cette précieuse parole à l'endroit où elle brillera le plus. Prenons un exemple, si vous prenez un chandelier, si vous placez ce chandelier sous une table, personne ne le verra. Jusque-là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Si vous le placez contre votre œil, il vous brûlera. Il nous faut donc le mettre à sa place, au centre de la table, là où sa lumière éclairera toute la pièce. Avec la Bible, c'est pareil. Si nous plaçons la Bible sous le lit, elle n'est pas à la bonne place. Si nous la plaçons au-dessus du Saint-Esprit, ou même au-dessus de Dieu, elle n'est pas non plus à la bonne place. Il est indispensable que nous la placions là où Dieu le veut. La Bible est le livre qui nous conduit à la vérité. Plus je lis les Écritures, et plus j'ai soif des choses dont elles parlent. La Bible est un moyen, ce n'est pas une fin. Je crois que beaucoup d'entre nous avons fait de la Bible une idole. Là, je suis dans la provocation, bien entendu. Nous avons fait de la Bible une idole. Imaginons si les mages avaient adoré l'étoile au lieu de Jésus, ils auraient fabriqué une idole à partir de l'étoile. L'étoile n'était que une aide pour les conduire à Jésus. Elle était l'ombre de la réalité. On parle beaucoup d'ombre de la réalité céleste. Je vous inviterai à lire chez vous, si vous voulez prendre note, Colossiens chapitre 2, verset 17 et Hébreux chapitre 10, verset 1. On parle beaucoup d'ombre des réalités. La Bible ne doit pas être placée au-dessus du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui inspire la Bible. Il existe des éditions de la Bible, et la mienne en est l'exemple, avec des aides. Sur les pages de garde, on peut lire « Si vous êtes triste, lisez le psaume 23 ». Je dis ça au pif, hein, c'est pas forcément vrai. « Si vous êtes dans l'épreuve, lisez le psaume 46 ». Et là, on se trompe si on reste à ce niveau-là. Si on ne fait que lire ces psaumes sans les pratiquer, eh bien on sera toujours dans l'épreuve, toujours dans la tristesse. Et nous sommes alors, si nous ne faisons que lire, des ministres de l'Ancienne Alliance. Nous l'avons lu ce matin en Hébreux chapitre 9. Nous ne donnons, avec une lecture seulement de la parole, que l'ombre de la réalité. Paul, quant à lui, donnait la réalité dont parle l'ombre. Nous pouvons être ministres de l'ombre ou ministres de la réalité. C'est à nous de choisir. Si nous suivons l'ombre, nous sommes loin de la réalité, puisque ce n'est qu'une ombre. Si nous suivons l'enseignement de la Bible, nous parviendrons à la réalité. Mais il ne faut pas s'arrêter à une simple lecture sans application de la Bible. Il faut que nous soyons les ministres de l'Esprit. C'est lui qui fait agir la parole en nous. Il faut que nous soyons les ministres de la réalité. Si nous donnons un verset qui parle de la paix, notre ministère apporte l'ombre, si bien que je suis en train de faire un ministère de l'ombre, n'est-ce pas ? Je ne fais que vous en parler, à vous maintenant de pratiquer et d'être des ministres de la réalité. Si je donne un verset qui parle de la paix, je n'apporte qu'une ombre. Si je vous donne la paix, eh bien je suis un ministre de la réalité. Et donner la réalité est possible si nous suivons l'Esprit. Souvenez-vous, quand Jésus envoie 70 disciples, il leur dit, en Luc chapitre 10, versets 5 et 6, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. » Les disciples ne donnaient pas un verset sur la paix, mais ils donnaient la paix elle-même. La nouvelle alliance, au lieu de parler de l'amour, met l'amour en action. Le fruit de l'esprit, vous le connaissez, je dis bien le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et tout ça, c'est bien plus que la loi, c'est bien plus que des écrits. En fait, l'amour est l'accomplissement de la loi. Si vous avez l'amour, vous avez le reste du fruit aussi. Le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la nouvelle alliance. Si nous ne faisons que parler de la paix, parler de l'amour, si nous ne faisons que donner quelques versets des Écritures qui parlent de ces choses, notre ministère apporte l'ombre de la paix et de l'amour. Mais si nous donnons l'amour, si nous donnons la paix, nous sommes dans la réalité de ces choses. Voilà la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La lettre est l'ombre de la réalité. L'esprit est la réalité. La réalité sous l'ancienne alliance était derrière le voile. On l'a lu ce matin. Derrière le voile se trouvait l'arche de l'alliance dans laquelle il y avait le bâton d'Aaron. Ce bâton desséché qui fleurit et porta du fruit. Et ça représente l'autorité de la nouvelle alliance. C'est cette loi incorporée dans notre cœur dont je vous avais parlé la dernière fois. Ne pas toucher, peinture fraîche, ça c'est ce que nous dit l'ancienne alliance. C'est ce que nous dit la loi. Et nous, bêtes comme nous sommes, nous ne pouvons résister à faire ces choses-là. La loi dit, ne laissez pas traîner vos vieux papiers, mais chez nous, nos tables sont remplies de vieilles paperasses qui traînent. La loi est bonne, mais elle ne peut nous empêcher de faire ce que nous ne devrions pas faire. La nouvelle alliance, c'est la promesse du Saint-Esprit, et c'est lui qui nous rend capables d'accomplir la loi. Vous connaissez le chapitre 8 de Romains ? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ça, c'est la nouvelle alliance. C'est à vous de décider si vous voulez continuer à vivre sous l'ancienne alliance, si vous voulez continuer à ne faire que lire votre Bible sans la mettre en pratique, à ne faire que de parler de l'amour et de ne pas mettre l'amour en action. Alors, c'est vrai que aux enseignants, on reproche souvent « tu es trop théorique », c'est papa qui disait ça il y a quelques semaines, « tu es trop théorique », mais frères et sœurs, la pratique, c'est à vous. Ce n'est pas à l'enseignant de la donner. La Bible nous donne la théorie, elle nous donne des exemples, elle nous donne des conseils, mais la pratique ne peut se réaliser que dans votre vie. La balle est dans votre camp. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mettre les Écritures en pratique et ne plus faire que de lire la Bible, la refermer et oublier aussitôt. C'est à vous de décider si vous voulez continuer à vivre sous l'ancienne alliance ou pas. Nous voulons que Christ redevienne le chef de l'Église. Et je dis bien redevienne parce que bien souvent, je ne dis pas qu'il n'a jamais cessé d'être le chef, mais c'est nous qui n'avons pas toujours été rattachés à lui en tant que chef. Et cela, nous voulons le faire afin de vivre la promesse du Père dans sa plénitude, la nouvelle alliance, la loi inscrite par l'Esprit dans notre cœur, la loi agissante. Aucune hérésie n'est prêchée par ceux qui sont conduits par l'Esprit. Les hérésies sont formées par ceux qui étudient les Écritures et en font un emploi abusif. Regardez combien de doctrines différentes sortent chaque année, si je puis dire. On a les Mormons, les Adventistes, les Pentecôtistes, les Réformés, les Baptistes, bon, il y en a encore plein, et ils ont tous le même livre. Presque chaque année, nous entendons parler d'une nouvelle doctrine qui a été lancée, tout à base des Écritures. L'Écriture n'est pas dangereuse en elle-même, mais si l'Esprit n'inspire pas la conduite qui découle des enseignements, on se trompe. Je crois à l'emploi de l'Écriture, mais cet enseignement pourrait paraître dangereux à certains. La nouvelle alliance, c'est l'Esprit. L'ancienne alliance, c'est la lettre écrite. Il est nécessaire que nous proclamions la parole de l'Esprit de vie et non seulement que nous rappelions la parole écrite. La parole s'accomplit par la vie que l'Esprit met en nous. Jésus a dit « Celui qui croit en moi » en Jean chapitre 7, « des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit. Alors, je vais vous faire un petit exemple pratique. À la chorale, on est un petit peu en lutte pour se détacher des partitions, n'est-ce pas ? Ceux qui sont dans le public, généralement, peuvent bien s'en apercevoir. Vous voyez une chorale qui, finalement, ne regarde pas le public, mais qui regarde son pupitre ou son classeur. Je ne dis pas que la partition est fausse, bien au contraire. Je ne dis pas que les notes qui sont inscrites sur la partition sont fausses, bien au contraire, elles sont justes. Mais si nous ne nous détachons pas de cette partition pour la chanter au monde, eh bien, nous n'allons pas avoir ce message vivant auprès du public. Comprenez ce que je veux dire ? Si nous avons la Bible devant nos yeux, en essayant de la lire du mieux qu'on peut, mais sans la mettre en application, sans s'en détacher pour mieux la pratiquer, on a tout faux, on est dans le ministère de l'ombre. La promesse du Père, c'est que la parole écrite se manifeste dans nos vies par l'Esprit. Ça, c'est la promesse du Père. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Une source de vie qui jaillit du dedans et non pas en lisant ou en essayant d'accomplir les Écritures. C'est une chose que d'être à la recherche d'un verre d'eau, c'en est une autre que d'avoir des fleuves d'eau vive qui coulent au-dedans de nous. La Bible est importante, je ne dis pas le contraire. La Bible est une puissance de Dieu, mais elle ne reste ni plus ni moins qu'un vieux bouquin si nous ne la pratiquons pas. La Bible, c'est nous, finalement. Nous nous en inspirons pour inspirer notre conduite. Si nous sommes des binoclars de la foi, c'est comme le gars qui reste dans son laboratoire à étudier des choses qu'il ne verra jamais de ses propres yeux. La Bible est importante, mais elle ne reste ni plus ni moins qu'un vieux bouquin si nous ne la pratiquons pas. Dans nos vies, bien souvent, souvenez-vous de votre début de vie chrétienne, nous avons commencé avec l'Esprit, mais nous avons fini avec la lettre. Et nous nous sommes battus. L'expérience que nous avons eue est comme si on entrait dans le fleuve jusqu'aux chevilles. Bien sûr, ceux qui ont vécu dans le désert, qui ont été altérés, assoiffés dans ce monde pendant des années et des années, ont l'impression que c'est ça, la plénitude de Dieu, avoir les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles. Mais ils s'arrêtent là. Quand nous disons à nos enfants « Allons à la rivière », nous entendons les berges. Mais quand Dieu dit « Allons à la rivière », il entend la rivière elle-même. Parfois, je pense que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, on reçoit un enseignement, l'enseignement fait des remous en nous, on est touché par cet enseignement, il fait des remous dans notre eau. Et nous en sommes tous éclaboussés et nous crions « ça y est, j'ai compris quelque chose, le Saint-Esprit me dit quelque chose ». Puis il s'en va. Et nous en sommes toujours avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Nous avons fait cette expérience plus d'une fois. Mais maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'entrer dans la rivière jusqu'à perdre pied, jusqu'à ce que nous soyons emportés par le courant, et ça, ça nécessite beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Perdre pied dans la rivière de l'Esprit. Le fleuve de Dieu nous entraîne parce qu'il va là où Dieu veut que nous allions. Aujourd'hui, c'est nous qui, par bien des manières, essayons de contrôler l'Esprit. Parce que nous avons encore pied, parce que ça nous rassure, et ça nous permet surtout d'aller là où on veut aller. Mais quand nous nous laisserons emporter par le courant, quand nous déciderons de ne plus avoir pied et de nous noyer quelque part, dans le fleuve que Dieu nous met à disposition par l'Esprit, eh bien ce fleuve nous entraînera où il veut. Et ce fleuve, c'est la Nouvelle Alliance. C'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est Christ en nous. Dans la Bible, il n'y a qu'une promesse, le fleuve de la promesse du Père qui est le Saint-Esprit. Toutes les autres promesses en sont les affluents. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long que ça, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Mais je voudrais simplement vous inviter à ne pas vous arrêter à la lettre, à ne pas vous arrêter à l'enseignement du dimanche matin, ou à la lecture peut-être que vous en avez, que vous avez de la Bible quotidiennement. Ce sont des bonnes choses, mais ce n'est pas suffisant. Ne nous arrêtons pas à la lecture de la Bible qui est une bonne chose. Mais laissons le Saint-Esprit nous faire vivre les enseignements que Dieu nous donne à travers la Bible. Arrêtons de ne faire que lire la Bible, rendons-la vivante, devenons la Bible par le Saint-Esprit. Amen.